Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, un des plus grands tournants de l'histoire, il y a 90 ans, l'année 1914. Notre société, même quand elle veut la paix, porte la guerre en mêle, comme la nuée porte l'orage. Jean Jaurès. Mille ans d'histoire. Parce qu'elle est à l'origine de presque toutes les guerres et les révolutions qui ont suivi, l'année 1914 est sans doute la plus importante de toutes les années qui ont marqué le XXe siècle. On ne fait pas, bien sûr, l'histoire avec des si, mais sans les conséquences démographiques, économiques, sociales et morales de la Première Guerre mondiale, sans les remaniements territoriaux qu'elle a entraînés, Lénine, Staline, Hitler et Mussolini seraient peut-être restés d'obscurs agitateurs politiques, les empires allemands, russes et austro-hongrois seraient peut-être encore debout, et la carte de l'Europe et du monde ne serait pas la même qu'aujourd'hui. On comprend pourquoi, depuis 90 ans, les historiens se demandent encore comment et pourquoi l'assassinat d'un prince autrichien à Sarajevo le 28 juin 1914 avait pu déclencher un conflit dont personne, à l'époque, ne pouvait prévoir ni la durée ni la violence. Pas même l'empereur d'Allemagne, qui quelques jours plus tard entraînait son peuple dans un cataclysme qui allait faire plus de 10 millions de morts. Écoutez cette archive, une des plus vieilles de la radio, la voix de Guillaume II il y a 90 ans, le 6 août 1914.
Au peuple allemand. Depuis la fondation du Reich il y a 43 ans, tous mes efforts et ceux de mes ancêtres ont été de maintenir la paix et de travailler vigoureusement à notre développement. Mais l'ennemi nous envie notre succès. Que le glaive tranche maintenant où il nous attaque en temps de paix. Aux armes. À la grâce de Dieu qui sera à nos côtés, comme il fut aux côtés de nos pères.
Jean-Jacques Becker, bonjour.
Bonjour.
Alors c'était la voix, une voix qu'on entend très rarement, de Guillaume II, l'empereur d'Allemagne, dans son entrée en guerre de son pays en 1914, dans un livre que vous avez consacré justement à l'année 14, à l'occasion du 90e anniversaire de cette année. Vous rappelez d'ailleurs que après cette guerre, qui a fait 10 millions de morts, Guillaume II, celui qu'on vient d'entendre, aurait dit « Je n'ai pas voulu cela ». Et pourtant, il est un des artisans de la deuxième, de la Première Guerre mondiale.
Oui, la personnalité de Guillaume II est une personnalité complexe. Quand il dit qu'il était partisan de la paix, il ne ment pas. Il a été pendant longtemps un souverain pacifiste, pacifique du moins. Et il a changé, avant 1914, assez tardivement. Et effectivement, dans les toutes dernières années avant 1914, il est convaincu, et il n'est pas le seul en Allemagne, que la France, qui était faux, préparait sa revanche. Et il dit au roi des Belges, la guerre va avoir lieu parce que la France la veut. Alors, cette formule, je n'ai pas voulu cela.
C'est une formule... voulait dire, je n'ai pas voulu la guerre. J'ai prévu, j'ai fait la guerre, mais ce n'est pas celle du tout à laquelle je m'attendais.
C'est une formule extrêmement ambiguë. Elle peut être traduite de toutes sortes de façons. Et en particulier par celle-là, je n'imaginais pas, une chose pareille.
Alors, ce qu'il y a d'étonnant aussi, c'est que votre livre commence, par exemple, par la visite du président de la République française, Raymond Poincaré, à l'ambassade d'Allemagne. C'était la première fois qu'on voyait un président de la République dans l'ambassade, même en France, d'un pays avec lequel on avait un contentieux terrible depuis 1870. Et puis alors, vous donnez aussi le sentiment qu'il y a d'autres personnes qui pensent, qui n'imaginent pas du tout que cette guerre va se déclarer. Vous citez, par exemple,
une phrase de Winston Churchill qui a écrit le printemps et l'été 1914 furent marqués en Europe par une tranquillité exceptionnelle. Au fond, elle était imprévisible.
Absolument. Contrairement à ce que l'on a souvent dit, il n'y a pas danger de guerre depuis 1905. En réalité, depuis 1911, depuis l'affaire d'Agadir, il y avait eu plus de tensions en Europe. Mais, par un phénomène étonnant, l'année 1914 a été, tout au moins jusqu'au mois de juillet, a été une année calme et il semblait que les dangers étaient en train de diminuer.
Et cela jusqu'à l'assassinat du prince héritier d'Autriche, François Ferdinand, à Sarajevo, où il était en visite officielle le 28 juin 1914.
Mon Altesse impériale, l'archiduc héritier François Ferdinand, et madame, la duchesse de Hohenberg.
Nous osons espérer que cette journée restera pour votre Altesse comme la preuve de notre fidélité, de l'attachement indéfectible de la Bosnie tout entière à la maison de Habsbourg.
Ainsi, par la volonté de conquête et d'hégémonie de quelques hommes, était créé le prétexte qui servit à déclencher la Première Guerre mondiale.
Et c'était l'extrait d'un film de Max Ophüls, de Meyerling à Sarajevo, où l'assassinat de François Ferdinand. On a du mal à en comprendre encore aujourd'hui, Jean-Jacques Becker, comment, pourquoi l'assassinat d'un prince autrichien par un Serbe dans un coin perdu des Balkans, où ni la France, ni l'Angleterre, ni même l'Allemagne ont des intérêts immédiats, et puis entraîner tous ces pays à se battre les uns contre les autres.
Oui, c'est une chose extrêmement étrange que l'assassinat de François Ferdinand à Sarajevo provoque, pour commencer, une guerre franco-allemande. C'est tout à fait étrange et on n'a pas assez souvent mis l'accent sur ce point, je crois. Alors, comment l'expliquer ? Eh bien, tout simplement, l'Autriche-Hongrie redoutait la pression que la Serbie, que le sentiment national serbe, la Serbie indépendante, faisait peser sur sa frontière méridionale. Et un certain nombre de dirigeants autrichiens, plus que austro-hongrois à vrai dire, souhaitaient, le cas échéant, régler son compte à la Serbie. Et c'était un bon... comment dirais-je, un cas qui permettait, l'assassinat permettait peut-être de régler son compte à la Serbie.
Il faut rappeler que là-dedans, il y a quelque chose qu'on a considéré comme étant une des causes majeures de la guerre, c'est la contrainte des systèmes d'alliance, parce que là, l'Autriche déclarant la guerre à la Serbie à cause de l'assassinat de François Ferdinand, la Serbie étant l'alliée de la Russie entre en guerre, mais du coup, l'Allemagne étant elle-même l'alliée de l'Autriche, elle mobilise, la Russie étant l'alliée de la France, enfin bref, tous ces pays, au fond, à partir de cet assassinat, vont entrer dans la guerre. Il y a une espèce de mécanique absolument incroyable qui fait qu'ils ne peuvent pas y échapper, au fond.
Qui semble infernale et en fait la guerre aurait pu ne pas avoir lieu. En fait, que s'est-il passé ? L'Autriche-Hongrie souhaitait, enfin, un certain nombre de dirigeants austro-hongrois et la population austro-hongroise également, souhaitait régler le compte de la Serbie, mais elle ne pouvait pas le faire sans l'autorisation du gouvernement allemand. Or, et c'est là les premières graves fautes de prévision. Les Allemands sont convaincus, enfin le gouvernement allemand est convaincu que la Russie n'interviendra pas. Donc ça restera une affaire très localisée. Et donc il n'y aura pas de guerre européenne. Mais ce n'est pas resté une affaire localisée.
Parce que la Russie, effectivement, se considère comme la protectrice des orthodoxes, des Serbes, etc. Enfin bon, on ne va pas revenir, parce nous avons même sur cette antenne, d'ailleurs, évoqué l'an dernier les causes. Ce que vous avez avec vous, on en a évoqué d'autres. Il y a eu, on a dit, mais vous écartez ça d'un revers de main. Il y a eu la course aux armements, les rivalités commerciales et coloniales, qui d'ailleurs, à cette époque-là, sont aplanies. Mais alors, il y a aussi, très important, la logique des plans de bataille, qui prévoyait des deux côtés une guerre courte, et tout le monde d'ailleurs en était persuadé, y compris les soldats qui, en 1914, dans toutes les gares d'Europe, partaient au front, la fleur au fusil, disait-on, sans savoir ce qui les attendait.
Il n'en a pas pour longtemps.
Vous croyez ?
votre mari? Il est dans quelle arme?
Dans l'infanterie. Et vous?
Eugénie.
Image de la France, symbole de l'espérance.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui l'année 1914, année bien sûr du déclenchement de la Première Guerre mondiale, au début de laquelle on a beaucoup dit, on vient de l'entendre dans cet extrait de film, au fond que partout on partait la fleur au fusil pour une guerre fraîche et joyeuse. Est-ce exact, Jean-Jacques Becker?
Non, ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact, pour prendre un exemple, lorsque les paysans français ont appris lors de mobilisation, en moyenne, ils ont été consternés. Cela étant, très rapidement, chaque peuple, et je dis bien chaque peuple, c'est-à-dire aussi bien les Allemands que les Français, sont convaincus d'être victimes d'une agression directe ou indirecte. Alors, ils ne vont pas partir la fleur au fusil, mais ils vont partir avec résolution. Ils sont convaincus d'avoir à défendre leur patrie.
Vous dites même, ça c'est très important, parce qu'on s'en rend pas compte, la guerre de 14 a changé beaucoup de choses, mais elle-même est un nouveau type de guerre, et vous insistez beaucoup sur le fait que c'est une guerre du peuple, et donc, d'une certaine manière, populaire, contrairement aux guerres précédentes qui étaient des guerres dynastiques où on réglait ses comptes entre familles régnantes. Là, c'est le peuple même qui, effectivement, non seulement est résigné, mais il le fait, il entre en guerre, disons, avec ardeur. C'est même d'ailleurs une des raisons pour laquelle en Russie, je crois, l'empereur disait qu'après tout, la guerre, ça rassemblerait peut-être son peuple derrière lui. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, Jean-Jacques Becker. Partout, sur le plan politique, on assiste à une union sacrée derrière les gouvernements des pays en guerre.
C'est plus vrai dans un certain nombre de pays d'Europe qu'en Russie. En Russie, en fait, les paysans n'ont pas compris pourquoi on les mobilisait. Et c'est une découverte relativement récente de l'historiographie que de savoir que les paysans, allant vers les lieux de concentration, se sont livrés à une multitude d'exactions. Il y a une sorte de petite jacquerie. Et puis, d'ailleurs, ces paysans russes, quand ils ont été embrigadés, quand ils étaient dans leur régiment, sont devenus comme d'habitude, c'est-à-dire obéissants, fidèles, courageux, etc.
Enfin, oui, en France, par exemple, c'est l'union sacrée. Jean Jaurès, qui avait voulu empêcher cette guerre, qui a été assassiné le 31 juillet, avant même qu'elle ne commence, n'a même pas pu empêcher cette espèce d'union nationale qui était en train de se former derrière le gouvernement Viviani.
Si on laisse de côté effectivement le cas russe, partout se constitue ce que l'on a appelé en France l'union sacrée, ce que l'on a appelé en Allemagne la paix civile, et il n'y a parler d'unanimité, c'est toujours un peu excessif parce qu'il n'y a jamais d'unanimité complète, mais pour l'essentiel, le cas le plus intéressant n'est pas le cas de la France, ni probablement le cas de l'Allemagne, mais le cas du Royaume-Uni, le cas de l'Angleterre, où la population était profondément pacifique. Eh bien, quand la décision est prise de partir en guerre, il y a un énorme mouvement de volontaires.
Et c'est ainsi qu'on va trouver, dès le début de la guerre, justement, des soldats, une armée britannique, commandée par un général au nom prédestiné, je crois qu'il s'appelait le général French.
Oui, il était très mauvais. Hein,
et dont les soldats, en tout cas, arrivent en France à Boulogne dès le mois d'août 1914.
Men, you are about to set foot on French soil.
Messieurs, vous allez poser le pied sur le sol français, maintenez les traditions de la vieille Angleterre et combattez comme des soldats britanniques. Pourquoi la Grande-Bretagne est-elle en guerre? Pour trois raisons. Premièrement, pour sauver sa renommée. deuxièmement, pour sauver sa propre vie et celle de son empire, troisièmement, pour sauver la liberté des démocraties d'Europe. On vient d'entendre Jean-Jacques Becker, l'éditorial du Times, le 31 août 1914, dans un pays, donc l'Angleterre, qui participera à la guerre du début à la fin, qui est présente, mais dans une guerre qui n'est pas encore, et vous insistez beaucoup dessus, une guerre mondiale. Il faut rappeler qu'au début de la guerre, la Turquie, qui entrera en guerre assez vite aux côtés de l'Allemagne, ni l'Italie, qui va rentrer en guerre contre l'Allemagne aux côtés des Alliés, ni même les États-Unis, surtout, qui vont attendre 1917 pour entrer en guerre, ne font pas partie, c'est pas une guerre mondiale encore.
Non, ce n'est pas une guerre mondiale, et cela n'a été jamais véritablement une guerre mondiale. C'est une guerre européenne, avec la participation d'un pays non européen, les États-Unis, un peu plus tard, à partir de 1917. On s'est battu également en Extrême-Orient, on s'est battu en Afrique. Mais
dans le Pacifique, il y a des guerres, il y a des batailles qu'on a totalement oubliées, oui. Les batailles navales, car les Japonais étaient en guerre, mais ils sont restés en Asie.
Mais on croyait, en particulier du côté français, on croyait que les Japonais allaient envoyer des soldats en Europe. Il n'a jamais été question pour eux d'envoyer le moindre soldat en Europe. Non, c'était pour l'essentiel, ça a été pour l'essentiel une guerre européenne.
Les Japonais, j'ai une petite parenthèse, qui se battront dans la guerre suivante avec l'Allemagne, se battaient contre l'Allemagne et rien que pour récupérer les territoires allemands, les îles du Pacifique. Il y avait un archipel, l'archipel Bismarck, qui est devenu japonais,
oui,
par exemple.
Le Japon était l'allié de l'Angleterre, et le Japon serait probablement resté en dehors de ce conflit, mais l'Angleterre lui a rappelé son alliance. Et finalement, les Japonais ne se sont pas fait trop tirer l'oreille pour s'occuper effectivement de leurs intérêts en Extrême-Orient et non pas venir en Europe.
Alors il y a un autre pays qui va entrer en guerre peu de mois après qu'elle ait commencé, c'est l'Italie. Mais dès le début, il y a une opinion publique qui est favorable à l'intervention du côté des Alliés. En fait, les Italiens, c'est tout bête, vont entrer en guerre pour des raisons strictement matérielles. Ils ont même marchandé leur entrée en guerre pour obtenir ce qu'on appelle les terres irrédentes, des territoires qui appartenaient soit à l'Autriche, soit... Et à ce moment-là, il y a un certain Mussolini, Benito Mussolini, qui est issu du Parti Socialiste Italien et qui demande l'entrée en guerre aux côtés des Alliés.
Oui, c'est Mussolini était un des principaux dirigeants socialistes italiens. Le Parti Socialiste Italien ne veut pas de la guerre, mais Mussolini fait partie de ceux que l'on appelle les interventionnistes. Mais le cas italien est intéressant parce que, en réalité, contrairement à la France ou à l'Allemagne, où les populations sont dès le début littéralement intégrées à la guerre, ce n'est pas le cas en Italie, où la guerre reste quelque chose, pendant un certain temps, au moins jusqu'à Caporetto, jusqu'en 1917, reste quelque chose d'assez extérieur. Et puis, effectivement, c'est un peu une guerre d'expansion, puisque les Italiens ont des revendications territoriales très précises, et c'est pour ça qu'ils font la guerre. Donc le cas italien, pendant un certain temps, est assez différent de celui des autres participants.
Ces revendications territoriales, je le rappelle, c'est des terres que possèdent les Autrichiens, que la France et l'Angleterre, pour avoir l'Italie à leur côté, promettent aux Italiens. Les Italiens qui ne l'auront pas, c'est une des raisons aussi de la Deuxième Guerre mondiale et des frustrations italiennes après la Première Guerre mondiale. Alors, là, on entre dans une guerre. Nous sommes fin 1915, après la bataille de la Marne. Il y a eu d'abord une formidable avancée allemande, puis brusquement... En 1914, pardon. Mmh. Et puis il y a eu brusquement donc l'arrêt de la bataille de la Marne. Et on entre dans une guerre que personne n'avait prévue, une guerre qui va devenir interminable. Et surtout, à un moment, et avec un moral qui reste solide de part et d'autre chez les soldats... Et cela est d'autant plus étonnant, et ça je l'ignorais totalement, Jean-Jacques Becker, que ces cinq premiers mois de la guerre, de d'août à décembre 1914, ont été plus meurtriers que les 12 mois de toutes les années suivantes. Hein, vous citez 60 000 morts en 5 mois, c'est-à-dire entre août et décembre, c'est-à-dire 3 000 morts par jour, hein, c'est-à-dire 60 000 morts par mois, mois, c'est-à-dire 3 000 morts par jour, c'est-à-dire 2 fois plus qu'en 1915, 3 fois plus qu'en 1916. Au fond, avant même que la guerre devienne une guerre de tranchées, c'était déjà un carnage.
Les pertes du début de la guerre ont été proprement inimaginables. Il suffit de rappeler ce chiffre, en ce qui concerne les morts français, 27 000 morts le seul 22 août 1914. C'est quelque chose d'absolument étonnant. Et dans un premier temps, les Allemands ont eu moins de pertes. Mais rapidement, on sent qu'il y a une sorte de... je ne sais comment dire. Mais les Allemands, à leur tour, vont précipiter des divisions d'étudiants, en grande partie composées d'étudiants volontaires, dans une bataille des Flandres, avec des pertes également 14, énormes.
Cela d'ailleurs, avec un moral intact du côté français, ça n'entame pas le moral ni des Français ni des Allemands. Si bien d'ailleurs que Paul Deschanel, le président de l'Assemblée nationale, rendait ainsi hommage au courage et au moral intact des soldats sur le front. Tendez bien l'oreille, c'est une très vieille archive, Paul Deschanel, le 22 décembre 1914.
Écoutons la voix des tranchées et des bombes. Ce qui vient de là, c'est un cri d'amour. Jamais la famille française n'a été oubliée. Les Français suivaient des chemins différents. Ils se sont rejoints au sabre.
Jamais la famille française n'était plus unie, on vient de l'entendre, les Français suivaient des chemins différents et se sont rejoints au sommet. C'était donc Deschanel, Paul Deschanel, en décembre 14, alors que les pertes étaient déjà, vous venez de le dire, énormes. Est-ce que c'était vrai ou est-ce que c'était de la propagande?
Mais je crois qu'on peut faire deux remarques. La première, c'est que le chiffre des pertes reste un secret. Ouais. Au fond, on a connu ces chiffres après la guerre. On se rend bien compte que les pertes sont extrêmement fortes, mais on ne sait pas combien elles sont épouvantables. Mmh. Deuxièmement, alors Deschanel était un orateur sonore plus que profond.
L'unité. Il sera président de la République après la guerre.
Oui, il sera président de la République
peu de temps
après la guerre,
oui.
Dans de conditions curieuses. Hein, mais l'union reste très forte. Ce qui ne veut pas dire qu'elle soit totale. Hein, il y a déjà des groupes qu'on ne voit à peu près pas, mais enfin qui existent, qui s'opposent à la guerre, oui, dans les milieux socialistes. Mais alors, est-ce que les soldats, dans leur masse, sont aussi résolus? Oui et non. Ils sont résolus à combattre, mais ils se rendent compte combien... C'est pire que ce qu'ils avaient pensé, car la guerre n'est pas terminée alors qu'on pensait qu'elle serait terminée en quelques semaines.
Et elle va durer encore Jean-Jacques Becker. Alors, il y a peu de gens lucides. Il y en a un que vous citez qui est en exil en Suisse, c'est Lénine, et puis il dit, lui, il se réjouit que la guerre se produise parce qu'il dit que ce sera un extraordinaire moyen pour favoriser la révolution. Il n'avait pas tort, elle va se produire en 1917, et c'est vrai que la guerre en est largement responsable. On peut dire aussi qu'après la guerre, Hitler, Mussolini arriveront un peu au pouvoir grâce à elle, donc avec eux des régimes que l'on sait, la Deuxième Guerre mondiale, plus tard même, on a beaucoup dit que l'émancipation des colonies, l'idée d'émanciper les colonies est venue du fait que les colonisés se rendaient compte des faiblesses des métropoles, le nationalisme dans les Balkans qui s'est, à cause de la Yougoslavie, créé par la Première Guerre mondiale. Tout ça, ce sont des conséquences immenses. Au fond, on peut dire que la Première Guerre mondiale, l'année 14 par laquelle elle commence, c'est la première année du XXe siècle, 14 ans après.
Je crois que, oui, tout notre siècle est né de l'année 1914, avec toutes les conséquences que vous venez de dire, et qui, alors, en histoire, on ne peut pas dire « Ah, ça ne serait pas arrivé », mais enfin, ce qui est arrivé, malgré tout, est dans la ligne droite de l'éclatement de la guerre de 1914, de cette guerre dont on a déjà dit tout à l'heure, mais je crois que c'est important, qui est une guerre des peuples, car c'est la première fois qu'on avait assisté à ces mobilisations générales des peuples européens dans cette guerre.
Au fond, Jean-Jacques Becker, la seule chose qui aurait pu l'empêcher, c'est que tout simplement, les dirigeants qui ont engagé leur pays dans la guerre savent à l'avance, mais ça c'était impossible, la tragédie que serait cette guerre de 14. Ça, évidemment, à ce moment-là, on imagine que tout le monde l'aurait évité.
C'est très compliqué, parce que il faut toujours citer ce cas. Lorsque Guillaume II, dans les derniers jours de juillet 1914, se rend compte qu'on va à une guerre franco-allemande, qu'on commence par une guerre franco-allemande pour cette obscure affaire de Sarajevo, eh bien, il pense que c'est absurde. On ne le sait pas, mais il le pense. Et il dit à son état-major, il faut changer les plans. L'état-major répond, c'est impossible.
C'est une des choses, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai vraiment découvertes, et pourtant je connais bien cette période, en lisant votre livre, Jean-Jacques Becker, la position de Guillaume II, et puis tout ce que vous dites dans votre livre, notamment sur le départ du gouvernement français vers Bordeaux, le fait que l'état-major ne veut pas qu'il revienne. Enfin bref, il y a énormément de choses dans votre livre, donc l'année 1914, qui vient de paraître chez Armand Collin. Vous avez également fait paraître en septembre deux autres ouvrages, l'encyclopédie de la Grande Guerre, que vous avez dirigé avec Stéphane Audouin-Rousseau aux éditions Bayard, et puis Histoire des gauches en France, que vous avez dirigé avec Gilles Scandard, un livre dont nous parlerons bientôt, aux éditions La Découverte. Vous avez pu entendre des archives extraites de l'encyclopédie sonore Bordas, Mémoire du XXe siècle, ainsi que des extraits des films suivants, La Chambre des officiers de François Dupeyron et de Meyerling à Sarajevo de Max Ophuls. Vous pouvez, vous le savez, nous contacter en tapant sur le service des relations extérieures, pardon, en composant le 32-30, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Olivier Riotor et Éric Girard, Virginie Bloch-Lenné, Claire Tessier et Anne Kobilac qui réalisaient cette émission.